Nous avons entendu au Laude un passage du chapitre 12 de la première aux Corinthiens qui nous dit justement ce que sont ces dons spirituels. C'est une autre traduction pour charisme. Il s'agit bien du même esprit, mais autant, je dirais, le Christ est celui qui unit, qui unifie, l'Esprit Saint, lui, au contraire, diversifie. Et vous voyez bien que le Verbe et l'Esprit sont justement là dans une complémentarité, comme le dit un père de l'Orient, ce sont les deux mains du Père. Alors cette diversification des dons, saint Paul nous les décrit, saint Thomas d'Aquin aussi a fouillé ce qu'était cette diversité des dons, et je me suis permis de faire un tableau que vous avez sous les yeux, un tableau qui traduit comme pour un arbre, cette diversité des dons spirituels, des charismes. Alors vous voyez que ce tableau, pour ainsi dire, il trouve son tronc, sa source sur la louange. La louange dont nous avons parlé toute la journée d'hier, c'était très important de partir de là, parce que pour une expression de la louange qui est le charisme du chant en langue, c'est le plus petit, mais c'est comme celui qui est donné à tous en vue de fruits. Et la louange suscite, à partir de la louange, se constate des fruits de bénédiction pour chacun, mais aussi pour tous, comme nous l'avons bien compris avec les enseignements de Sœur Claire. Alors je résume ici ce que peuvent être ces charismes, comme les décrit saint Paul, et comme ils étaient vécus, non seulement dans les premières communautés chrétiennes, mais comme ils ont été aussi apparents à différents moments de l'histoire de l'Église, on n'a pas le temps d'en parler, mais aussi peut-être plus particulièrement, vous le savez, depuis maintenant une quarantaine d'années, et puis dans des églises protestantes depuis plus longtemps, et à la façon donc de ce que le renouveau charismatique a été comme suscité par ce renouveau des charismes. Voilà, donc ces charismes bâtis sur la louange, on est bien d'accord là-dessus, avec ces deux vertus théologales que sont la foi et l'espérance. Voilà le terreau, voilà à partir de quoi les charismes peuvent effectivement être se manifester et être aussi éviter justement toutes sortes de désordres comme ça a pu arriver et comme saint Paul le relevait déjà dans les milieux de Corinthe. Mais à partir de la foi et de l'espérance, bien sûr, d'entrée de jeu, nous le savons bien, c'est l'enjeu du chapitre 13, vous savez, dans cette première épître aux Corinthiens, l'hymne à la charité, où saint Paul nous dit « Tout ça, c'est rien à côté de la charité. » Mais bien sûr que tout est ordonné à la charité. C'est pour ça que tout à fait en haut, comme dans un ciel, au-dessus de cet arbre, on trouve la charité, qui n'est pas un charisme, c'est une vertu. Et ça, c'est évidemment pour tout le monde. C'est celle dont nous vivrons dans l'éternité, la charité. Saint Paul nous dit même qu'il n'y aura plus que celle-là. Voilà. Donc foi, espérance, mais tendue vers la charité. Et s'il n'y a pas de charité dans un groupe de prière, c'est pas la peine. L'exercice des charismes qui se ferait sans la charité, on sait tout de suite où ça mène. La division, les rivalités, etc. Donc voilà, on est tendu bien sûr dans les vertus théologales. Je dis tout de suite au passage, la différence entre les vertus et les sacrements, qui sont les missions invisibles du Saint-Esprit, celles dont nous pouvons vivre tous les jours, celles que nous cultivons, les vertus, c'est le plus important dans la vie chrétienne, les sacrements qui sont les moyens éminents qui nous sont nécessaires pour la vie chrétienne. Voilà. Donc vertu et sacrement qu'il faut surtout mettre au-dessus de tout le reste. Et puis mission plus visible, mais ce n'est pas parce qu'elles sont visibles qu'elles sont plus importantes. Ce que vous voyez dans la vie spirituelle, c'est ce qui est invisible qui est le plus important. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le visible. Saint Augustin dit « À l'invisible par le visible, ad invisibilia per visibilia ».